Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Édouard Rosset.
Bonjour, nous parlons aujourd'hui du droit de la famille. Ce droit est soumis à de multiples réformes depuis maintenant 40 ans. Évolution de la société oblige, que ce soit le mariage, le concubinage, le divorce, l'adoption, près de la moitié du Code civil est consacrée à cette question. Le Code civil qui, par contre, ignore un des thèmes d'actualité depuis le printemps 2004, le mariage entre homosexuels. Alors, législation sans cesse adaptée, au point que l'on pourrait penser avoir atteint une certaine maturité, au moins un point d'équilibre. Qu'en est-il exactement? Pourquoi cette évolution rapide au cours des dernières décennies? Penchons-nous sur la question avec nos invités aujourd'hui, présents dans le studio de Canal Académie, Madame Dominique Fenouillet, professeure à l'Université Paris 11, Monsieur François Théret, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de l'Association française de philosophie du droit et directeur des archives de philosophie. Et puis nous attendons Madame Monique Sassier, directeur général de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Madame Fenouillet, Monsieur Théret, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour évoquer donc ce sujet qui a fait l'objet d'un rapport de l'Académie des sciences morales et politiques publié aux presses universitaires de France et auquel ont collaboré, outre vous, Madame, et vous, Monsieur Théret, Hervé Lécuyer, qui est professeur à Paris 2, délégué à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, et puis Lydie Reiss, qui est donc de l'Université Paris 12. Alors, je le disais, depuis 40 ans qu'est modifiée la législation, le droit de la famille, on pouvait espérer un point d'équilibre. Eh bien, vous dites, en substance, dans ce rapport de l'Académie auquel vous avez activement participé, vous dites clairement des forces puissantes ont remis en cause certaines données de cet équilibre. Donc, véritable révolution, c'est le mot, François Théret.
Oh, je pense qu'il n'y a pas eu de véritable, de grande force depuis 40 ans qui est remis en question. Les solutions qui avaient été dégagées à partir de l'année 1964. Il y a eu un mouvement d'idées, entretenu d'ailleurs par des amateurs de sensationnel, pour remettre en cause certaines solutions qui avaient été adoptées à l'époque. Peut-être qu'il y avait-il dans certaines de ces lois des solutions d'approche que sociologue qu'il était et spécialiste de sociologie législative, le doyen Jean Carbonnier avait mis en place, mais de réformes fondamentales, de mouvements, d'opinions, de courants fondamentaux, il y en a beaucoup moins que ce que la presse sait plus en dire.
Dominique Fenouillet, vous partagez ce point de vue?
Oui, je pense qu'il y a effectivement des groupes de pression, mais ils sont, semble-t-il, assez minoritaires dans la société. Ils se font entendre très fort, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait véritablement une lame de fond dans la société qui justifie des réformes.
Alors, quid de la place du progrès de la génétique et de la biologie qui ont bouleversé les structures traditionnelles de la famille? Est-ce que ça a beaucoup influencé, je dirais, le droit, l'aspect juridique des choses? François Théret.
Nous sommes au deuxième centenaire du Code civil. La première insémination artificielle humaine a eu lieu la même année que la promulgation du Code civil, en 2004. Et quand on se réfère au discours préliminaire de Portalis, on s'aperçoit que les solutions qui étaient retenues à l'époque en matière justement de filiation tenaient au fait qu'à l'époque, les mystères de la procréation étaient encore, malgré cette innovation, considérés comme une donnée de base de la réflexion législative. Qui sait s'il n'en aurait pas été autrement, si à l'époque, ces progrès de la génétique et de la biologie ne s'étaient pas déjà manifestés. Alors il est certain que, surtout à partir du moment où on a vu se dégager la possibilité de procréation assistée et surtout de conception in vitro, la question de relation, du rattachement par le sang à l'un ou l'autre des parents et surtout à la jeunesse de l'enfant a pu être pris en considération, d'ailleurs d'une manière assez semblable dans les divers pays d'Europe. Ce que l'on constate, c'est que, contrairement à ce qu'on avait dit pendant des années, suivant lesquels les droits de la famille ne se rapprochaient pas véritablement, la différence du droit des obligations, lorsque a été fêté le 50e anniversaire de la Commission internationale de l'état civil, on s'est aperçu d'une part qu'il y avait des rapprochements entre les droits et d'autre part que le droit français était un des plus satisfaisants qui soit en Europe occidentale. Et ceci expliquant le souci de limiter, d'imiter ce droit par certains pays voisins du nôtre, tandis que dans le même temps, les Français spécialistes de l'autoflagellation considéraient qu'il fallait absolument qu'il soit dans le vent. Dans le vent, c'est pas le vent d'ouest là, c'est plutôt le vent du nord.
L'actualité va très très vite. Dominique Fenouillet, récemment, dans cette actualité, il y a eu, je dirais, une porte ouverte à la recherche embryonnaire. Ça va encore modifier un peu plus les choses, non ?
Si le projet de loi actuellement en cours de discussion aboutit et s'il fait ce qu'il semble souhaiter faire, ce que les députés semblent souhaiter faire, effectivement, là, on affirmera un principe, c'est l'interdiction de la recherche embryonnaire pour aussitôt, à titre expérimental, apporter des exceptions, ce qui est dans l'ordre de la procédure un peu étonnant, puisque affirmer un principe et s'autoriser dans l'immédiat à le transgresser est tout de même quelque peu plus symbolique que pratique. Et puis évidemment, se posera alors de façon cruciale la question du statut de l'embryon. Et nous rentrerons dans une logique de chosification de l'embryon qui dépasse tout à fait celle qui existe actuellement.
On peut véritablement dire, et là je vous pose la question à tous les deux, que les structures de la famille ont été sérieusement ébranlées, en fait. François Théret, Dominique Fenouillet.
Je ne suis pas sûre qu'on puisse dire que les structures de la famille ont été sérieusement ébranlées. Je pense que le mariage conserve très largement la fonction traditionnelle qui était la sienne, à savoir à la fois d'instituer un couple et de fonder une famille. Je pense que dans l'ordre de la filiation, la loi 1972, très largement, a été dans le sens d'une évolution. Je ne pense pas qu'on puisse véritablement dire qu'elle ait ébranlé les structures de la famille. En tout cas, cela suppose de définir la famille comme étant exclusivement une famille fondée sur le mariage. Et je ne crois pas que l'on puisse dire que la famille soit exclusivement fondée sur le mariage, ni d'ailleurs qu'elle ne le soit plus. Je ne crois pas qu'il faille parler véritablement d'ébranlement. Je pense qu'il y a une ouverture du droit de la famille à plusieurs modèles familiaux. Et effectivement, si l'on reste dans la perspective de 1804, alors il y a ébranlement. Mais pour le reste, je ne pense pas qu'on puisse parler d'ébranlement.
Oui, François Théret. François Théret.
Il y a une fidélité à l'idée de mariage qui se manifeste même dans la mesure où les homosexuels veulent à tout prix se marier.
On va en parler. Ce qui prouve la force du modèle.
S'il y avait une régression de l'idée de mariage, il en serait peut-être autrement. À ceci près qu'on peut expliquer une chose, c'est qu'ils n'ont pas envie de se marier, mais qu'ils ont envie d'avoir le droit de se marier.
Oui, c'est qui est peut-être plus de l'ordre symbolique que de l'ordre vraiment juridique. Oui.
En tout cas, la famille reste bel et bien la cellule d'organisation de la vie privée et contribue le mieux à structurer la société aujourd'hui. C'est un ciment, la famille.
Oui, le danger tient dans une forte poussée individualiste qui consiste à ne plus voir la famille comme un droit de l'individu et à ne plus mesurer justement que la famille est aussi une structure sociale qui fédère des intérêts privés et qui tente à instituer des relations pacifiées, pacifiques et durables. Et à partir du moment où l'on ne voit plus que dans la famille, il y a un droit à une famille, et où l'on oublie le fait qu'une famille, c'est aussi un groupe qui, forcément, limite la liberté individuelle de chacun, eh bien, il y a là un facteur tout à fait évident d'explosion de la cellule familiale.
François Théret.
Oui, je suis tout à fait du même avis. Je dirais que l'auteur que j'évoquais tout à l'heure, qui a eu un grand rôle dans toutes les évolutions de la législation, disait ou a écrit récemment, en tout cas il m'avait redit, c'est que maintenant dans notre société, toute pulsion humaine a vocation à devenir un droit subjectif, n'est-ce pas ? Et puis alors à cela s'ajoute...
C'est la liberté, non ?
J'ai besoin de... Donc j'ai un droit, puisque j'ai un besoin. Ben j'ai un droit. Et c'est là tout ce qui est entretenu par un individualisme exacerbé et favorisé d'ailleurs, à mes yeux, par une espèce de fondamentalisme des droits de l'homme qui est la nouvelle religion du temps présent, disons une secte très répandue.
Donc, il y a beaucoup de portes ouvertes, en fait. Est-ce que ça représente pour autant un danger, l'évolution des choses, comme l'on dit ?
Ah oui, parce que c'est à partir du moment où l'individu prime toute espèce de groupement, où l'individualisme est véritablement le fondement de toute solution du droit, au mépris de l'intérêt public, de l'intérêt collectif, de l'idée même de famille dans ses fonctions fondamentales, alors je ne vois plus pourquoi il y a une famille. Et d'ailleurs, l'évolution du droit du divorce le démontre abondamment. Vous savez, un contrat cadre de livraison de cacahuètes, avec livraison échelonnée sur plusieurs périodes, eh bien, la conservation des cacahuètes contractualisée est plus forte que le mariage.
Oui. C'est du mariage. Alors, je ne voudrais pas
confondre le mariage avec les cacahuètes, c'est peut-être voilà. Mal vu.
C'est
mal vu pour les cacahuètes.
C'est une image. Oh, c'est une image. Alors, je ne demanderai pas la réaction à Dominique Fenouillet à cette image. Mais sur, effectivement, l'individualisme, vous en parliez, Madame Fenouillet. Le Code civil en tant que tel ne comporte pas vraiment, même pas du tout, de définition du mariage.
Ni de définition du mariage, ni de définition de la famille. Il aurait bien du mal d'ailleurs à en contenir. Nul ne s'accorde pour en donner véritablement une. Non, il s'ouvre sur un livre premier consacré aux personnes, et c'est dans le livre premier sur les personnes qu'il régit la famille.
Oui.
Et c'est très symbolique, c'est très, très passionnant, de ce lien entre la personne, la famille et la société civile.
Mais il n'y a pas de définition du mariage
non
à
plus.
Proprement parler.
Non, parce qu'en réalité, chacun met dans le mariage beaucoup de choses. Donc, il y a des conditions de formation, il y a des effets du mariage. À partir de ces conditions et de ces effets, on voit tout de même apparaître un semblant de définition du mariage. Mais ensuite, chacun met dans cette coquille impérative un peu de ses désirs dont nous parlions plus haut, un peu de ses rêves, un peu de ses espoirs.
Le mariage, il y a trois manières de le définir, si on voulait. La première manière, elle est latine. C'est proles, fides, sacramentum. Proles, la progéniture. Voilà, contrôle des naissances. Fides, oh ben non, liberté, l'obligation de fidélité, faut voir à voir, n'est-ce pas? Il y a des arrêts curieux, en jurisprudence, du côté de Bordeaux, là, par là-bas.
Quoique, à l'inverse, on introduise la fidélité dans le Pax.
Oui, c'est assez curieux. Et puis alors, bon, c'est la première. Et puis, sacramentum, il y a longtemps que. Bon. Oui, mais je crois que le sacramentum est beaucoup plus important, mais est-il encore nécessaire de prévoir une célébration civile compte tenu de tout ce que l'on voit? Mais alors, ça serait régression.
Il est manifeste que c'est bien le souci de beaucoup d'avoir une célébration civile.
Et oui, mais est-ce qu'elle se justifie encore?
Oui, peut-être.
Ah, ouais.
Et
puis il y a une autre définition des vieux auteurs coutumiers. Alors, c'est boire, manger, coucher ensemble, c'est mariage.
Ce me semble.
Bon, ah, ce me semble, disait l'auteur. Alors, Loisel, bon, mais boire, manger, coucher ensemble, il y a beaucoup de gens qui boivent, qui mangent et qui couchent ensemble.
Et ne sont pas mariés.
Et ne sont pas mariés. À l'époque du Code civil, il avait été envisagé de définir le Code civil comme le mariage est une société de secours mutuel. Ça n'a pas été accepté.
Alors, pas de définition du mariage dans le Code civil. N'est-ce pas finalement la brèche dans laquelle se sont engouffrés les partisans du mariage entre homosexuels?
Dominique Fenouillet. Non, je ne crois pas qu'on puisse dire cela. Là, je crois qu'il faut se méfier. Il y a le juriste honnête homme et il y a le juriste qui utilise des arguties juridiques. Et je pense que prétendre que le Code civil autorise en l'état le mariage des homosexuels, c'est faire preuve d'une mauvaise foi assez patente, quelle que soit au demeurant la sympathie qu'on peut avoir pour tel ou tel. Ce sont deux choses différentes. Les textes du Code civil sont aujourd'hui assez clairs, me semble-t-il, pour écarter tout équivoque à ce sujet-là. J'ai le texte de l'article 75, alinéa 3. Il recevra de chaque partie les questions de l'officier d'état civil, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Alors, sauf à ne pas avoir la même langue que vous et moi, il me semble que mari et femme, ça ne laisse pas beaucoup d'ambiguïté sur le sexe des futurs époux.
Au singulier,
qui plus est, tout à fait.
Au
demeurant, la Cour de cassation a déjà eu l'occasion de dire très clairement qu'il y avait dans la différence de sexe une condition de validité du mariage. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il n'y a aucune ambiguïté possible. Et par ailleurs, il n'y a pas d'ambiguïté non plus dans les effets du mariage. Les effets du mariage participent à sa définition, même si elle n'est pas explicite. Et les effets du mariage, ils sont doubles. Ils se développent certes dans la relation de couple. Et sur ce terrain-là, il y a des couples homosexuels comme il y a des couples hétérosexuels, mais il se développe également dans l'ordre des enfants, dans l'ordre de la parenté. Or, il me semble me souvenir, mais vous me détromperez peut-être, qu'au moment du vote de la loi sur le PACS, il a été très clairement dit que le pacte civil de solidarité ne produisait pas d'effet dans l'ordre de la filiation parce que l'on ne voulait pas justement voir apparaître le droit à enfanter qu'auraient eu les couples homosexuels. Donc je crois que de ce point de vue-là, l'équivoque, elle est affichée, elle est explicite, elle est politique, mais je ne crois pas qu'elle soit juridique ou qu'elle soit technique.
François Théré, oui, sur ce point.
Je crois que c'est absolument évident. Pourquoi est-ce qu'ils se sont précipités sur la rareté des textes du Code civil? C'est tout simplement parce que depuis une quarantaine d'années, pour assurer les conséquences de l'égalité du mari et de la femme, le législateur a employé pour les désigner l'expression « les époux ». Et non plus mari et femme, le mari doit protection à sa femme,
la femme obéissance à son mari. Tort de le lire, ce texte. Fâcher.
Non, parce que je pense d'ailleurs qu'il suffirait de l'inverser. La femme doit protection à son mari, le mari doit obéissance à sa femme.
Je ne suis pas davantage d'accord.
Et puis on est très content comme ça, vous voyez, moi je vous rends justice pour ça. Non mais alors, comme on n'a plus mis que les époux, sauf un texte isolé, oublié.
Ah, qui est
quasiment
important, l'article
75.
Ah oui,
mais il faut s'y accrocher comme une branche, mais elle peut craquer, cette branche. Et au fond, ce mariage est nul, le mariage qui a été célébré, c'est incontestable.
À Bègle, entre deux hommes, oui.
Mais ils le savent qu'il sera annulé, c'est pas ça. Il s'agit de créer un état d'esprit général. Et alors, il suffit qu'une période électorale se rapproche pour que l'on parle davantage. Mais là, dans le droit européen, ça n'a pas été possible. Pourtant, le mariage homosexuel est admis en Belgique et en Hollande. Alors, on fait l'Europe. Mais si on fait l'Europe avec une communauté de culture, etc., et des élections, mais il suffira que deux futurs époux, deux homosexuels, bisexuels, trisexuels, quadrisexuels, se déplacent en prenant le Thalys, et puis au Pays des Merveilles.
Je ne pense pas que la SNCF soit très heureuse de cette publicité. En tout cas, ce qui est certain, c'est de constater, ce qui est intéressant de constater, c'est en fait un législateur, un député en l'occurrence, dont on taira le nom, mais que l'on aura reconnu évidemment, un homme qui doit faire des lois et qui lui-même contredit ces lois.
Et qui surtout est chargé de les appliquer, parce que comme maire, il est chargé de les appliquer. C'est il n'est pas tellement chargé de les faire,
non,
ça à la limite, pourquoi
vous
pas.
Vous savez, il ne les fait plus tellement les lois, il les fait faire. Il les fait en séance de nuit pour faire plaisir à ses électeurs.
Voilà, nous marquons une pause, première pause dans cette émission. Éclairage consacré au droit à la famille. Madame Monique Sassier, directeur générale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, vient de nous rejoindre. Nous poursuivons notre conversation dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
On retrouve Édouard Rosset.
Quel droit pour la famille ? C'est le thème développé dans notre émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui avec nos invités, Madame Monique Sassier, directrice générale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, Madame Dominique Fenouillet, professeure à l'Université Paris 11, et puis François Théré, je rappelle, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de l'Association française de philosophie du droit et directeur des archives de philosophie. Et la base de notre conversation est un rapport qui a été publié aux presses universitaires de France, placé sous la direction de vous-même, Monsieur Théré, rapport simplement intitulé « Le droit de la famille ». Alors avant la pause, nous avons planté le décor. Votre rapport, François Théré, fait des propositions. Comment et avec qui avez-vous travaillé pour établir ce rapport ?
Bien, nous avons
comment l'avez-vous conçu ?
Bien, nous avons beaucoup travaillé. Et nous sommes réunis, il y avait une équipe qui était réduite, mais pas en qualité, constituée par Madame Dominique Fenouillet, à l'époque professeure à Paris 11, avec laquelle nous avons écrit tous deux un ouvrage sur le droit des personnes et de la famille. Et le professeur aussi Hervé Lécuyer, qui est et qui était professeur à l'époque à Beyrouth, détaché à Beyrouth. Tous deux maintenant sont professeurs à l'université de Paris 2. Et puis Madame Lydie Reiss, qui était assistante, on dit à terre dans notre jargon de sigle, à terre à l'université Paris 10, Paris 11 plutôt. Et nous avons pensé régulièrement, nous avons ordonné nos travaux à partir de préoccupations qui tenaient essentiellement au droit du mariage, mais cela nous a conduit quand même, chemin faisant, à élargir un peu notre réflexion à travers aussi, par voie de conséquence, des réformes qui étaient intervenues dans l'intervalle, et notamment, nous avons cru nécessaire de nous préoccuper, et c'était déjà parfaitement dans le cadre de nos travaux, de cette institution qu'on appelle le Pax, il faudrait peut-être lui trouver un autre nom, parce que Pax Christi, c'est pas Pax, je ne vois pas très bien. On peut trouver des formules de remplacement, c'est pas... parler des partenaires, je crois, plutôt que des paxés. Enfin, ça, c'est une chose. Et puis aussi, la réforme du droit au nom, du nom patronymique devenu nom de famille. C'est quelque chose d'étonnant qu'au moment où la famille semble reculer, le nom de famille semble... Mais ça fait partie des flux et des reflux du langage juridique, ils ne sont pas importants. Alors, nous avons examiné des diverses questions, les unes après les autres, faisant le point de ce qui avait été écrit par la doctrine, dégagé par la jurisprudence, mais surtout ce que nous avons voulu à l'occasion de ces travaux, et parce qu'on parlait, et c'est récurrent comme problème dans le langage juridique, journalistique et parlementaire, la réforme de la famille, nous avons voulu proposer des articles de réforme précis à l'issue d'ailleurs de notre travail.
L'initiative part du principe que le droit de la famille doit être aujourd'hui réformé.
Pas forcément. Il ne devait pas l'être a priori. Au contraire, nous pensions que beaucoup de choses dans le droit de la famille avaient survécu et que les réformes qui étaient intervenues en 1964 pour la tutelle, en 1968 pour la filiale, en 65 pour les régimes matrimoniaux, en 68 pour les incapables majeurs, en 70 pour l'autorité parentale, en 75 pour le divorce, n'était pas encore arrangé au magasin des accessoires. Est-ce qu'un droit de la famille doit changer tous les 30 ans? Prescription extinctive du droit de la famille tous les 30 ans, à croire certains propos tenus, vous allez couper ce que je vais dire, bien entendu, on peut s'interroger sur la vicissitude, la sénescence précoce des lois du monde contemporain.
Dominique Fenouillet.
Vous avez été aimable, vous avez parlé de celle des lois. Oui, je pense que les différentes réformes qui étaient intervenues sur beaucoup de points méritaient d'être stabilisées. Et je ne suis pas sûre que ce soit ce qui ait été fait. Par exemple, à propos de la réforme du divorce, on a beaucoup dit qu'elle s'était bornée à rester dans la logique de la loi de 75. Je pense qu'il y a sur certains points une rupture profonde et une rupture qui retentira sur le mariage parce que les institutions familiales sont en étroite cohérence et en étroite symbiose et que réformer le divorce, c'est sans le dire réformer le mariage. Et je pense que là, on a un exemple parfait de ce que, en poussant jusqu'au bout une logique que le doyen Carbonnier avait su au contraire préserver de façon mitigée, intermédiaire, eh bien, on aboutit à une toute autre cohérence que celle qui avait été mise en place en 1975. Et je ne suis pas sûre du tout que ce soit la cohérence voulue par la société.
Monique Sassier, je le disais, bonjour madame, tout d'abord, vous représentez l'Union nationale des associations familiales. Alors, plusieurs questions, plein de questions même à vous poser, mais je vous poserai la même, identique. Donc, faut-il, selon vous, réformer, attendez-vous une réforme nouvelle du droit de la famille ?
Si le droit de la famille a vocation à engranger les évolutions des structures familiales, il va falloir se décider à réformer indéfiniment. C'est un peu ce qui se passe. Le droit de la famille en fonction des évolutions. Et dans ce cas-là, considérer que le droit vient enregistrer les faits. Si on considère au contraire que le droit de la famille a une fonction de structuration dans la société, et qui n'a pas à immédiatement s'inscrire dans le repérage ou la reconnaissance des faits, y compris des évolutions de structure, il n'y avait pas urgence à réformer le droit de la famille, et en plus, je dirais, morceau par morceau, même pas ensemble. Vous faisiez allusion au doyen Carbonnier. Il disait de sa formule célèbre qu'il avait choisi de ne pas porter la main sur le mariage. Précisément parce qu'il disait que le mariage avait cette fonction laïque qui l'éloignait des confessions et des communautés. Eh bien, il s'agit de savoir aujourd'hui ce que l'on veut faire de notre droit, tout particulièrement le droit de la famille, et si on veut le faire correspondre, je dirais, à l'immédiat familial et social. À l'UNAF, nous penserions plutôt que non, et qu'en tout cas, il faut avoir une prudence extrême. On le voit d'ailleurs dans ces temps de débat sur le mariage homosexuel ou sur d'autres sujets.
Quel est le bon droit de la famille, selon vous, Madame Sassier ?
Le bon droit
de la famille. Est-ce qu'il y a des critères bien précis ?
Pour nous, en tout cas, le bon droit de la famille, ce serait celui qui n'est ni un droit d'organisation des phénomènes sociaux ou familiaux, ni un droit à mode d'emploi sur comment faire quand on divorce demain sans trop de souffrance. C'est quand même une douce illusion. Le bon droit de la famille, c'est celui qui constitue le fait et constitué par lui et qui donne à la société des repères et qui donne aux enfants à venir des repères transmis par un droit un peu lointain, mais à sens philosophique, à sens de vie.
Le rapport publié donc aux Presses universitaires de France, Le droit de la famille, dirigé par François Terray, prône, et vous me rectifierez, Monsieur Terray, si je me trompe, prône à la fois simplification et surtout pédagogie, c'est bien cela. Hein. Ce sont, je dirais, les deux maîtres mots de ce rapport.
Oui, simplification autour d'un choix, à partir d'un choix. Est-ce que le mariage, en tant qu'il est constitutif de la famille, le mariage et la filiation, se réfère uniquement à une conception de la famille qui serait une conception de rapport privé, de rapport d'une société, d'un groupement purement privé entre contractants qui s'accordent, ou bien est-ce que cela a une signification d'intégration via la famille à la société globale ? Est-ce que cela n'intéresse que la vie privée, ou est-ce que c'est aussi un élément de la vie publique des Français ? Et autres. C'est là la principale réponse à votre question.
Donc mieux engager, enfin mieux informer aussi le couple sur les engagements du mariage.
Je crois que s'ils ne l'ont pas compris avant de se marier, c'est un peu tard ensuite.
Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant parfois.
Oui, oh bien,
avant la célébration
mais
du mariage.
C'est avant encore que le... Dans certaines confessions religieuses, la préparation au mariage est plus ordonnée, plus évidente. Mais que voulez-vous qu'on fasse les préparer au mariage, il faudrait d'abord que les parents s'y emploient. Et comme ils ne s'emploient plus à beaucoup de choses, sauf disparité familiale, c'est pas... Et leur expliquer ce que c'est que le mariage, ils ont dû le voir à travers... l'éducation qu'ils ont reçue, le mariage ou ce qui tient lieu de famille naturelle, puisque maintenant il y a une espèce d'assimilation. Les deux grands changements qui sont intervenus depuis 50 ans sont des changements tenant à l'égalité et à la liberté. À l'égalité entre les époux, à une bien plus grande émancipation de la femme mariée, et à l'égalité entre les filiations, et à une plus grande libéralisation, qu'on a appelée dédramatisation en matière de divorce, mais ça c'est une autre affaire. L'éducation, la loi pédagogue, je veux bien, en matière de mariage, j'hésite à répondre.
Dominique Fenouillet.
Oui, bien sûr qu'on peut rêver d'une loi pédagogue, la réalité est sans doute un peu différente. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de confusion actuelle dans la société sur le rôle de la famille. Et on en arrive à ne considérer que la famille sous son angle individuel, dans un aspect, dans une perspective d'intérêt privé. C'est exactement ce que nous disions tout à l'heure sur le désir d'avoir un enfant, le désir de constituer un couple, le désir de divorcer, le désir de fonder une nouvelle famille. Si la société ne perçoit plus que la famille sous cet angle-là, alors la famille est effectivement en péril. Mais la pédagogie de la loi ne peut pas aller sans la pédagogie générale de la société, qu'elle se réalise dans la structure familiale ou qu'elle soit réalisée par les médias. Et les médias sont assez peu friandes de parler de structure familiale. Elles préfèrent bien l'aspect sensationnel du mariage homosexuel de Bègle.
Monique Sassier, réaction à ces propos ?
Une réaction. Il se trouve que l'année dernière, j'ai un peu travaillé sur la médiation. Et au fond, quel est le seul enseignement de la médiation familiale, pour parler de celle-ci ? C'est que l'urgence de la réflexion pour la société, c'est véritablement de réfléchir, non pas sur la résolution des conflits, on trouvera toujours des solutions pour le faire, mais sur la nature de l'engagement. Et avec la médiation, ce que l'on voit, c'est que le choix est fait d'intervenir sur les suites des conflits, sur le système, sans travailler sur les causes. Ça, c'est un enseignement très, très intéressant. Et véritablement, travailler sur les conditions de l'engagement, travailler sur les conditions du long terme, c'est aujourd'hui ce qui nous manque. Je dirais que d'un certain point de vue, dans les réformes du droit de la famille, c'est ce qu'on a choisi de ne pas faire.
Absolument. C'est-à-dire travailler en amont, en fait.
On a même fait Dominique pire Fenu. Que choisi de ne pas le faire. Et le meilleur exemple, c'est ce qui est actuellement envisagé en matière de filiation, puisque actuellement, en matière de filiation, on invoque l'égalité entre les enfants légitimes et les enfants naturels pour en déduire qu'il faudrait que le seul acte de naissance suffise à établir le double lien de filiation. Vous savez qu'actuellement, c'est vrai pour l'enfant légitime parce qu'il y a eu un engagement parental au jour du mariage. Et la valeur de cet engagement est très forte. Au jour du mariage, les époux prennent l'engagement de s'occuper des enfants à naître. Cet engagement, évidemment, n'existe pas hors mariage, puisque par définition, il n'y a pas de mariage. Donc, il ne peut pas y avoir, à ce moment-là, à cet instant symbolique, d'engagement. D'où la nécessité d'une reconnaissance. Eh bien, sous prétexte d'égalité entre les enfants, on veut supprimer la nécessité d'une reconnaissance et faire produire à l'acte de naissance sa force probatoire. Le résultat étant qu'en réalité, sous prétexte d'égalité, on va dissocier la filiation de l'enfant légitime et celle de l'enfant naturel, puisque celle de l'enfant légitime aura un double fondement biologique et volontaire, et que celle de l'enfant naturel n'aura plus qu'un fondement biologique, en tout cas à l'égard de la mère, puisque c'est rarement la mère qui reconnaît l'enfant elle-même et qui déclare l'enfant à l'état civil. Donc il me semble qu'il y a là une preuve vraiment excellente de ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on ne réfléchit absolument pas à l'importance pour les individus de s'inscrire dans un lien familial et d'établir un lien familial avec le sentiment d'une responsabilité fondamentale. Et à partir de là, effectivement, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes les dérives.
C'est la déstructuration totale. François Théret.
Notre société matérialiste et consumériste a surtout insisté sur les fonctions patrimoniales de la famille. Alors la famille, comme foyer de production, comme instrument de distribution, comme instrument aussi comme mode de consommation, car le droit de la consommation et de la distribution est très axé sur le moyen d'atteindre les familles pour les faire consommer comme outil de production, de consommation. D'ailleurs, on le voit bien dans quelle mesure les modes de publicité visent l'argent de poche des enfants. La famille, c'est un moyen de soumission à une société véritablement marchande et matérialiste. Et alors, les fonctions extra-patrimoniales de la famille, qui étaient évoquées il y a un instant, se trouvent en quelque sorte mises à l'ombre. Les fonctions extra-patrimoniales traditionnelles de la famille sont un peu l'ombre portée de leurs fonctions patrimoniales.
L'autorité, la spiritualité.
Le rôle des parents, le rôle des parents. Monique Sassier, sur ce point.
Ce qui est aussi mis de côté, c'est l'idée qu'il faut engager la durée. Et c'est l'idée qu'il faut engager le fait de nommer l'enfant. On a de plus aujourd'hui une sorte de confusion ambiante, mais sans doute telle arrangeante d'un certain point de vue, mais une confusion entre le rôle d'éducation des parents, qui finalement peut se faire de différentes façons, et même par des parents de famille recomposée, et puis le rôle de nomination de l'enfant, qui lui est effectivement de l'ordre de la filiation, et qui lui seul va faire que l'enfant naisse au monde. L'enfant ne naît pas au monde simplement par la naissance biologique. il naît par une naissance de reconnaissance et de dénomination. Et on a un peu l'idée que cette naissance des dénominations, finalement, s'échappe, s'évade, au profit de conseils sur l'éducation, au profit des modes de vie. Ça, c'est véritablement des choix de société qui décident d'aller toujours plus avant vers le droit individualisé, dont on notera par ailleurs qu'on le réclame. On demande des droits personnels à la sécurité sociale, on demande des droits personnels dans bien des secteurs de la vie, mais on ne mesure pas nécessairement jusqu'où ils doivent aller dans les lois de structuration.
La question du nom est très présente hein, dans ce rapport de l'Académie des sciences morales et politiques, Madame Fenouillet.
La question du nom a été une question très débattue au sein du groupe, hein, sur laquelle il a été très difficile de voir clair.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que le nom engage de façon symboliquement très forte à la fois l'individu et la famille. Et justement, toute la difficulté est d'essayer de trouver un système qui soit équilibré entre le respect de l'aspect identitaire, hein, de la fonction identitaire qu'a le nom, et également, ce qui pour nous était très important, qui était le respect justement de la fonction familiale du nom et le fait que le nom est un moyen de placer l'enfant dans une famille, donc dans une structure. Et il est clair que le système patronymique à cet égard a des avantages qui sont évidents, mais qu'à l'inverse, au regard de l'aspect plus identitaire du nom, c'est un système qui ne m'enthousiasme pas, pour parler très clairement. C'est la raison pour laquelle nous avons réussi progressivement, me semble-t-il, à un système qui était peut-être
François
le meilleur.
Confirme, avec sourire, mais confirme.
Sourire, on arrive toujours.
Qui consistait en réalité à associer automatiquement le nom du père et de la mère au profit de l'enfant, ce qui était un moyen pour nous d'assurer à la fois cette structuration familiale de l'enfant et en même temps le respect de l'égalité des parents dans le rattachement par le nom de l'enfant.
Alors, je rappelle que l'émission Éclairage, que vous écoutez actuellement, est consacrée aujourd'hui au droit de la famille. Canal Academy s'intéresse à ce droit de la famille à travers le rapport publié aux presses universitaires de France, rapport intitulé justement et simplement « Le droit de la famille » sous la direction de François Terret, un rapport à lire donc de l'Académie des sciences morales et politiques. Alors, le droit, et là je vous pose la question à tous les trois, le droit ne doit-il pas aussi maintenir ou plutôt rétablir la symbolique? Il ne faut pas se limiter à la seule question juridique, François Terret.
Oui, mais justement, rétablir la symbolique, qu'est-ce que cela signifie? Ça supposerait d'ailleurs dans votre question que cette symbolique a disparu. Or, a-t-elle tellement disparu? L'augmentation du nombre des divorces concerne le mariage. Mais toute l'évolution a consisté à admettre l'existence, mais avec toutes les différences qui subsistent entre la famille légitime et la famille naturelle. Alors, où trouver exactement la symbolique? La symbolique de quoi? La symbolique de la famille, elle existe, elle est même plus forte qu'on ne le croit. Heureusement qu'il y a eu des familles pour assurer justement cette assistance mutuelle au lendemain de la dernière guerre mondiale, notamment pendant toutes les années, et elles ont continué longtemps, de crise du logement. S'il avait fallu s'en tenir uniquement aux aides de l'État pour résoudre et surmonter la crise du logement, on en serait encore loin. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit ensuite avec le développement du chômage. Le développement du chômage, si l'on considère que ce n'est pas en permettant aux femmes mariées d'accéder davantage au marché du travail qui a pu augmenter de manière quelconque le nombre des chômeurs, il n'en demeure pas moins que ce sont les familles qui ont quand même et qui contribuent à subir, outre les allocations de chômage, éventuellement le sort des personnes qui sont atteintes. Alors, la symbolique, moi, je crois qu'elle existe. Elle existe un peu autrement, n'est-ce pas? On ne peut pas dire qu'il y a eu une désacralisation du mariage. Pas plus qu'il y a eu une désacralisation de la confirmation ou de la première communion, n'est-ce pas? Et on y tient beaucoup à la première communion, et même quand on ne croit rien du tout, l'important, c'est la fête, l'important, c'est le cadeau. Quant aux parents, eh bien, ma foi, peu de conseils, pas de visites et puis beaucoup de cadeaux. Oui. Alors, dans cette mesure, la symbolique du mariage, on peut encore se battre pour la restaurer.
Un point de vue que vous partagez, Madame Monique Sassier, je rappelle, directrice générale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, la symbolique.
Oui, en tout cas, il y a dans le symbole une sorte de valeur d'abstraction, une sorte de valeur du sens. Et cette dimension-là nous paraît importante. C'est-à-dire que dans ce sens partagé, dans cette sorte de bien commun, finalement, du sens partagé, il nous semble qu'il y a de l'avenir, mais qu'il y en a moins à considérer que le mariage résulterait finalement seulement de l'amour et qu'il ne serait détruit que par la fin de l'amour. Je dirais que les uns et les autres aurions sans doute divorcé déjà au moins 50 fois et que le mariage repose aussi sur d'autres engagements à valeur publique et qui, s'il ne revient pas à des symboles de l'exprimer, on se demande qui le fera. Donc cette valeur pour nous est essentielle et elle est à reconstruire parce qu'elle n'est finalement pas détruite.
Alors, c'est à la fois concret et abstrait. Dominique Fenouillet, vous souhaitiez peut-être réagir et je vous pose une question précise concernant le droit.
Je crois que la symbolique dans le droit de la famille, elle est très présente. Je ne crois pas du tout qu'elle soit morte et j'en veux pour meilleur exemple, justement, les mariages homosexuels qui ont été célébrés ou dont on demande la célébration. Il y a derrière cette demande une demande de symbole tout autant que de droit. Donc le symbole dans le mariage, il est présent partout. Il suffit de regarder sur les murs de la ville fleurir les robes de mariée, toujours plus blanches et toujours plus à dentelle. On rejoint là ce qui était dit sur l'aspect festif du mariage. Mais je crois que derrière la robe blanche, il y a tout de même une symbolique qui est forte aussi, qui est une symbolique d'engagement, une symbolique de la création, de quelque chose de pur, pas seulement la symbolique de l'amour. Mmh. Alors bien sûr, ce serait tout à fait réducteur d'imaginer que le mariage se résume à la robe blanche. Il n'empêche qu'il y a derrière la célébration quelque chose de très fort et l'on voit apparaître la même chose à l'égard de l'enfant, puisque l'enfant légitime il est accueilli dès le mariage et que l'enfant naturel en théorie justement il est accueilli par la reconnaissance de cet enfant, ce que l'on envisage justement de supprimer. Donc je pense qu'il faut faire très attention à la symbolique dans la famille. Elle est véritablement essentielle parce qu'elle est porteuse d'un engagement et d'un engagement durable. Sans cela, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de structure familiale.
Mais comment concrètement introduire la notion de symbole, la symbolique, dans un cadre juridique? Puisque là, on parle du droit de la famille.
La célébration d'un mariage par un officier d'état civil est une symbolique très forte. Le recueil d'une reconnaissance par un officier d'état civil doit être un élément très fort. Et d'ailleurs, la loi du 4 mars 2002 a demandé à l'officier d'état civil de lire les textes relatifs à l'autorité parentale, tant à l'occasion du mariage que à l'occasion de la reconnaissance. Il y a là des temps forts dans une vie familiale, parce qu'en réalité, c'est ça. Là, nous sommes dans une symbolique qui est une symbolique individuelle. L'individu prend un engagement solennel, et cet engagement, il le prend à l'égard de lui-même, de l'autre et de la société tout entière. Et je pense qu'à trop tuer ces choses-là et à trop s'aligner sur le fait et à trop ouvrir tout à tout le monde, eh bien, on en arrive un peu à tuer les fondements essentiels de la famille.
François Théré.
Le mariage, tel avec sa célébration, justement, c'est la prolongation laïcisée d'un mariage religieux. Et d'un mariage religieux qui avait été même conçu pour les protestants dès avant la Révolution, dès 1787. Alors, c'est pourquoi beaucoup de personnes qui se marient, et qui se marient soit à l'église, au temple, à la synagogue ou à la pagode, hein, moi c'est pas mon problème, considèrent qu'ils seront davantage mariés pour cette raison que par rapport et par l'effet d'une célébration du mariage dont la symbolique est un peu atteinte, à telle enseigne qu'on finira par se demander un jour si la célébration de mariage et l'immatriculation à la sécurité sociale, par l'effet de la disparition du symbole, ont la même fonction. C'est le combat des chiffres et des lettres qui passionne les amateurs de télévision. Mais, de toute façon, y a un élément qui est démographique quand même dans la symbolique du mariage. Parce que l'allongement de la durée de la vie aboutit à ce que, au lieu d'en prendre, pour parler du droit pénal, pour 10, 15 ans, 20 ans comme autrefois, on en attrape pour 50, 60 ans, alors qu'on peut vouloir éviter la l'amnistie ou la libération conditionnelle, n'est-ce pas?
Le divorce vous permet une libération qui n'est même plus conditionnelle.
Ce n'est même plus une libération conditionnelle, puisque je crois que, quand même, je finis par le penser, que la réforme récente du divorce, mais vous vouliez peut-être en parler tout à l'heure, est de nature à introduire la répudiation.
Trois invités autour de cette table pour parler du droit de la famille, un cahier des sciences morales et politiques à découvrir aux Presses universitaires de France, placé sous la direction de François Terret, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de l'Association française de philosophie du droit et directeur des archives de philosophie. Aux côtés de M. Terret, Mme Dominique Fenouillet, professeure à Paris 11, l'Université Paris 11, et Mme Monique Sassier, directrice générale de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales. Alors, la réforme du divorce, nous avons beaucoup entendu le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, s'exprimer devant les députés à l'Assemblée nationale. Concrètement, quelles leçons tirer de cette réforme du divorce? Je pose peut-être d'abord la question à Madame Sassier.
Le premier enseignement qu'on en tirerait à l'UNAF, c'est de dire que c'est une réforme du mi-chemin. Mi-chemin entre on garde un peu la faute, mais pas complètement. On garde une conciliation, mais pas les deux, donc on considère qu'elle est de trop. On crée néanmoins une possibilité d'être laissé pour compte sans grand recours. On hésite aussi sur la prestation compensatoire. Bref, on dirait que dans l'air du temps, c'est une bonne réforme, parce qu'elle correspond aux hésitations du moment. Dans son aspect, je dirais, pratique, de toute évidence, elle va faciliter un certain nombre de divorces, techniquement, mais elle ne va pas pour autant résoudre aucun des conflits qui est plutôt plus tu qu'évoqué. C'est le cas des griefs, qu'on évoque presque plus. Donc une réforme d'une société qui hésite, finalement, entre redonner du sens au divorce et se faisant au mariage, ou bien plutôt accompagner le phénomène des séparations, tout en ayant d'ailleurs, faudrait le dire, on réforme le divorce sans chiffres sérieux, finalement, sur le divorce et sur les causes du divorce. Ça n'empêche pas forcément de réformer, mais ça reste une question. Et finalement, on réforme sans bien savoir, alors que le mariage semble subir des évolutions tout à fait nouvelles, au début de la vie des couples dès qu'ils ont un enfant, mais aussi dans une deuxième partie de la vie, parce qu'effectivement, on n'en prend quand même pas pour 50 ou 60 ans, mais plutôt pour deux fois 30 ans, et qu'on se remarie dans l'intervalle. Donc, on a une situation, je dirais, un cadastre social totalement différent, et on a essayé de refaire un peu les règlements.
Alors, faciliter certains divorces, c'est quand même quelque part, je ne prends pas parti, mais un constat, c'est tuer la famille, enfin tuer le mariage, non? Quand on facilite une rupture, c'est dangereux pour le mariage en tant que tel. Monique Sassier, ensuite Dominique Fenouillet.
Les chiffres montrent que tous les turiféraires de la mort du mariage en sont quand même pour leurs frais, puisque ce n'est pas ça qui se passe. Donc non, le divorce ne tue pas forcément le mariage. En revanche, il peut en altérer le sens auprès des jeunes générations. Ça, c'est un phénomène qu'on évaluera dans quelques temps. Et c'est au fond la question de quel sens on veut donner à nos lois, à nouveau, qui se posent. Que le phénomène du divorce soit plutôt apaisé, parce qu'on vit vieux aujourd'hui et qu'après un divorce, il faut se débrouiller à tout prix pour revivre avec quelqu'un. Sinon, la vie est du point de vue de la cohésion sociale quand même extrêmement complexe. Qu'on facilite ça sur le plan social et politique, c'est un choix. Il faudra quand même en tirer les conséquences sur le plan individuel.
Bon, il faut être aiguillon, en fait. Aiguillon dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs. Dominique Fenouillet, sur ce point de la réforme du divorce, oui ou non, en facilitant la rupture, on tue ou pas le mariage?
Je crois que la réforme, c'est très étonnant parce que dans le même temps, le garde des Sceaux a affirmé, lorsqu'il a présenté son projet, qu'il réaffirmait la valeur de l'engagement, de la responsabilité, etc. Donc tout un joli paquet cadeau qui entoure une réforme qui est quand même profondément, à mon sens, profondément, j'allais dire, destructrice, ça c'est pour les pessimistes en tout cas, qui bouleverse véritablement l'ordre matrimonial. Pourquoi ? Là, il y a deux réformes qui sont vraiment très importantes. La première, elle concerne ce que l'on appelle aujourd'hui le divorce pour rupture de la vie commune et qui se transforme en divorce pour altération définitive du lien conjugal. La modification, elle est double, elle est d'ordre temporel. Il fallait 6 ans de séparation, il en suffira aujourd'hui de 2. Elle est surtout d'ordre symbolique parce qu'il y avait une clause de dureté qui permettait, lorsque le divorce était vraiment trop rigoureux pour la femme ou l'homme ou divorcé, le défendeur, ou pour les enfants, lorsque donc le divorce était trop rigoureux, on écartait la possibilité du divorce. Il n'y avait donc pas de droit à divorcer. Ça, c'est la première modification qui est véritablement totale. C'est une véritable rupture qui s'est instaurée. Et le doyen Carbonnier avait bien insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de répudiation en 1975 parce que le divorce pour rupture de la vie commune ne permettait pas d'être qualifié ainsi. Aujourd'hui, je crois que l'encadrement du divorce pour altération définitive du lien conjugal fait qu'on doit parler de répudiation. C'est une répudiation. La deuxième évolution brutale, réforme, qui bouleverse complètement le sens du mariage, c'est la réforme relative aux conséquences de la faute. On a maintenu la faute dans le divorce, mais on l'a privée de ses effets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'aura plus de conséquences en termes financiers. L'époux coupable, l'époux innocent seront traités également, tant dans l'ordre des donations, des avantages matrimoniaux, que dans l'ordre de la prestation compensatoire. Et là, il me semble qu'il y a véritablement une rupture totale avec le droit du mariage. Pourquoi ? Le mariage, c'est à la fois des droits et des devoirs. Et ces devoirs ne sont sanctionnés, il faut être franc, il faut être honnête, il faut dire les choses comme elles sont, que par le droit du divorce. Elles ne sont pratiquement pas sanctionnées dans l'ordre de la responsabilité civile. Si vous supprimez la sanction de la faute dans le divorce, vous supprimez la sanction des devoirs de mariage. Et si vous supprimez la sanction des devoirs de mariage, vous modifiez profondément le sens de l'engagement matrimonial. Que sera le devoir de fidélité s'il n'a pas de sanction ? Ça n'est plus un devoir juridique, ou c'est un devoir juridique sans sanction. Cela veut donc dire que pour les générations à venir, le devoir ne vaudra que pour ce que leur conscience personnelle veut bien en dire.
Et on revient à cette notion d'individualisme.
Absolument. Alors le but avoué, c'est de pacifier la procédure. Ce but-là, tout le monde est d'accord avec lui, c'est évident. Que le moyen choisi soit le bon, là, moi, je ne suis pas du tout convaincue. D'abord parce que je pense que le contentieux ressurgira ailleurs, en particulier sur l'enfant. Et l'enfant, à mon sens, risque de faire les frais de cette neutralisation des torts. Et d'autre part, je pense que c'est une réforme qui est anormale dans la mesure où elle n'a pas été mesurée, elle n'a pas été pesée. Il faut quand même connaître les conditions dans lesquelles la réforme du divorce a été votée. Il y a une déclaration d'urgence, ça a mis 2 jours au Sénat, 2 jours à l'Assemblée nationale, donc le débat a été complètement supprimé. Alors on a dit, il y a eu des rapports avant, je veux bien, mais c'est le législateur qui, dans une société démocratique comme la nôtre, vote les lois, c'est pas les rapports. Nous avons fait un rapport, mais ce rapport n'est qu'un rapport, il est destiné à éclairer, c'est pas lui qui fait la loi.
Les délais très brefs sont volontaires, selon vous, Madame Stracier ?
Oui, bien sûr. Il faut avancer coûte que coûte, il y a des échéances à certains moments. Oui.
Vous savez, la loi n'est plus l'objet d'une gestation sérieuse. Ce qui compte, c'est de faire des lois. Et tout ministre en exercice a envie de faire sa loi.
C'est un outil de gestion.
Et c'est l'expression d'une politique conjoncturelle. Donc il faut faire vite parce qu'on se succède les uns aux autres. Et il faut bien que chacun ait sa loi. Ceci est important dans la conception du droit de la famille. Alors maintenant, si on essaye de revenir à l'histoire, vous parliez de la répudiation. Au fond, c'est encore un des propos du doyen Carbonnier que je retrace ici. Je ne crois pas être infidèle à sa pensée, parce qu'il me disait, mais au fond, il s'apprêtait à écrire, je crois. Mais il n'est plus des nôtres. Il disait, au fond, quand on a introduit le divorce en 1792 en France, c'était pour faire plaisir aux protestants. Quand on a maintenu la séparation de corps en France en 1884, c'est pour faire plaisir aux catholiques. Et bien maintenant, quand on a introduit la répudiation, c'est pour faire plaisir aux musulmans. Mais quand même, je voudrais insister sur le fait que, qu'est-ce que c'est que la répudiation ? Si la répudiation, c'est l'acte unilatéral du mari qui répudie sa femme sans autre forme de procès, nous n'en sommes pas là. Mais pour dire que le divorce pour rupture de la vie commune n'était pas une répudiation, le doyen Carbonnier disait, non, il y a des conditions, il y a des charges. Idée des charges, et il y a l'idée d'un contrôle judiciaire. Or, dans l'évolution qui est constatée, les conditions de temps sont réduites de manière très considérable. Dès le lendemain de la célébration du mariage, l'un des époux peut dire à l'autre « au revoir et bonsoir » et au bout de 2 ans, il pourra, ayant rendu par son propre fait le maintien du lien conjugal intolérable, ce qu'exige théoriquement la loi, eh bien, ce sera terminé. Et ce sera terminé de telle manière que, en fait, ce qui reste d'important, c'est le recours au juge. Mais que signifie le recours au juge dans des conditions particulières, dans de telles conditions, de telle sorte que, sous réserve du fait qu'il est bilatéralisé et qu'il y a encore un contrôle formel judiciaire, nous sommes bel et bien en présence d'une répudiation. D'ailleurs, Napoléon et Joséphine, c'était l'un et l'autre répudiés. On a dit qu'il avait introduit le divorce par consentement mutuel dans le code civil. C'est pas cela qu'il a utilisé. Un, pour le mariage au sens religieux, leur mariage religieux, ils se sont auto-répudiés l'un l'autre. Puis pour le mariage civil, il a fallu aller voir devant le Sénat pour qu'il vote un senatus consulte pour rompre le lien. Mais peut-être qu'un jour, quand le divorce sera à nouveau combattu, il faudra faire travailler le Sénat là-dessus.
Dominique Fenouillet.
Oui, le divorce pour rupture de la vie commune était un divorce à charge, c'est-à-dire que le demandeur assumait toutes les conséquences patrimoniales du divorce. Et cela disparaît. Cela voudra dire que, pour parler concrètement, le lendemain de la célébration qui a été faite, pardon pour les féministes, entre une femme pauvre et un homme riche, la femme quitte son mari. 2 ans plus tard, elle pourra obtenir la séparation convertie en divorce, elle pourra obtenir le divorce. Et bien, à ce moment-là, elle pourra lui demander une prestation compensatoire. Vous jugez vous-même.
Oui.
De ce qu'est le sens d'un tel mariage. Le mariage est devenu, je pense, quelque chose de très dangereux pour les hommes. Il faut qu'ils en soient conscients. Parce que comme l'inégalité de patrimoine est en général au détriment de la femme et à l'avantage de l'homme, la conséquence est que c'est la femme qui est en général créancière de la prestation compensatoire. Dans le droit issu de la loi de 75, si elle était seule responsable de la dissolution du mariage, elle n'avait droit à rien. Mais aujourd'hui, même si elle est responsable, seule responsable de la dissolution du mariage, elle a droit à une prestation compensatoire. Ce qui modifie quand même considérablement les choses, puisque ça accentue la solidarité patrimoniale du mariage et que ça tue la solidarité personnelle.
Monique Sassier.
Dans les positions que nous avons remises au garde des Sceaux,
au titre de l'UNAF,
l'UNAF sur cette prestation compensatoire, nous avons été d'une sévérité sans borne et tout à fait non entendu. Mais je pense que du côté des ministres, on doit avoir une légère conscience que le divorce modifie le mariage, puisque est maintenant créé un groupe de travail sur le mariage civil. Donc si l'inconscient existe, c'en est bien là une preuve. Mmh.
Alors, je voudrais terminer cette émission quand même par une note optimiste. Cette émission a été optimiste.
Mais moins, la famille
sur le
va
fond,
bien.
Absolument, absolument. si vous aviez... tous les trois, un vœu à faire pour un bon droit de la famille. Quel serait-il ? Un seul vœu. Madame Sassier.
Un droit qui préserve un sens collectif et non pas un droit qui protège, arrange ou dérange des situations individuelles.
Dominique Fenouillet.
Un double vœu, que l'on n'oublie pas que la famille, c'est une famille avant d'être une collection d'individus isolés. Donc exactement le même vœu que celui qui vient d'être exprimé. Et puis le vœu aussi que ce ne soit pas seulement un effet politique de manche et un outil de gestion de telle ou telle difficulté symbolique ou patrimoniale ou personnelle dans la société.
Ce qui est le cas aujourd'hui.
Ce qui est le cas aujourd'hui.
Clairement. François Théré.
C'est ce que je disais tout à l'heure en commençant, puis je boucle la boucle, c'est que qu'on cesse de considérer le mariage comme un engagement plus facile à dénouer qu'une vente à livraison échelonnée de cacahuètes.
Merci beaucoup pour cette conclusion. Je rappelle donc notre émission consacrée au droit de la famille. Ce rapport, je renvoie à sa lecture aux Presses universitaires de France, le droit de la famille, cahier des sciences morales et politiques. Nous en parlions aujourd'hui sur Canal Académie avec Dominique Fenouillet, professeur à l'Université Paris 11, Madame Monique Sassier, directeur général de l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, et puis donc François Théré, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, président de l'Association française de philosophie du droit et directeur des archives de philosophie. Mesdames, Messieurs, je vous dis à très bientôt sur cette antenne.
La suite de votre programme dans un instant.